La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. Depuis le grand rassemblement pour la paix organisé dans le stade de Bamako en 2012, les appels à la prière ressemblent de plus en plus à des meetings politiques au Mali. Et bien que les imams affirment ne pas faire de politique, c'est bien avec le soutien de Sabati, la fédération des associations islamiques, que Ibrahim Boubacar Keïta a remporté son premier mandat présidentiel en 2013.
Je serai le président de tous les Maliens.
Je serai le président de la réconciliation nationale. Inch'Allah.
Afin de mieux comprendre la nature des relations historiques entre les différents courants de l'islam et le pouvoir au Mali, je vous propose de revenir sur les itinéraires de deux imams superstars, Mahmoud Diko, de formation wahhabite, et le soufi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Les deux imams ont chacun leur vision de la place de la religion dans la société malienne. Nous avons également demandé des points d'éclairage au chercheur Jean-Louis Hamzel, spécialiste de l'islam au Mali et directeur des cahiers d'études africaines.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Le Mali est une ancienne colonie française. Son nom, c'était le Soudan français, un pays indépendant depuis 1960. Et dans l'article 25 de sa constitution, on peut lire que le Mali est une république indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Si la laïcité signifie la séparation entre État et religion, elle signifie aussi liberté de tous les cultes. Au Mali, c'est essentiellement le culte musulman, toutes tendances confondues. Écoutez un amoureux du Mali, il s'appelle Jean-Louis Hamzel et il a beaucoup travaillé sur l'islam à Bamako. Nous allons d'ailleurs le retrouver lui aussi tout au long de cette édition.
La place de l'islam est très, évidemment très importante dans la société malienne et très ancienne aussi. Et ça, on l'oublie souvent. L'islam a pénétré en Afrique au sud du Sahara au Xe siècle, donc c'est pas d'hier. Et donc les souverains et les cours de ces grands empires soudanais du Moyen-Âge étaient musulmanes. Même si le peuple était soit païen ou animiste ou fétichiste, tout ce que vous voudrez, ou faiblement islamisé. Donc c'est un islam qui est parti du haut, des classes dirigeantes, et qui s'est ensuite diffusé vers le bas de la société. Donc c'est un phénomène très ancien, ça n'est pas une nouveauté. Et en plus, je dirais que les phénomènes de radicalisme islamique ne sont pas nouveaux non plus. Par exemple, au XVIe siècle, on a déjà des savants musulmans réformateurs comme Al-Marili, qui peuvent tout à fait être comparés aux djihadistes actuels qui occupaient le nord du Mali avant l'intervention française. Par exemple, Al-Marili a fait en sorte que les juifs, vous savez qu'il y avait des juifs à Tombouctou et dans le nord du Mali, il a fait en sorte que les juifs soient exterminés dans le nord du Mali. Donc c'était l'équivalent, si vous voulez, des wahhabites ou des salafistes actuels.
Au regard de l'histoire, l'islam fanatique ne serait donc pas nouveau au Mali, nous dit Jean-Louis Hamzel, un pays que l'on évoque en général comme un pays de tradition soufie.
Alors je crois que cette idée d'un islam subsaharien qui serait en quelque sorte préservé du réformisme, du radicalisme, de l'islamisme, tout ce qu'on voudra, je crois que c'est une idée qui renvoie à la colonisation, en fait, à une vision coloniale de l'islam qui est celle de l'islam noir. C'est l'idée qui était défendue par Federbe au XIXe siècle, selon laquelle les peuples blancs ou rouges, les peuples blancs, c'est-à-dire les Touaregs et les Maures, et les rouges, c'était les Peuls, étaient les vecteurs d'un islam fanatique, qu'on retrouve aujourd'hui au nord du Mali avec les djihadistes, et que en revanche les Sérères, les Wolofs ou les Bambara, les bons Bambara, seraient des païens, des animistes, des fétichistes ou des musulmans des musulmans tranquilles qui pratiqueraient un islam noir combinant justement l'islam et l'animisme ou le fétichisme. Je crois que c'est une idée qui ressort actuellement sous la forme de l'islam soufi. L'islam soufi mystique serait un rempart justement contre les formes radicales d'islam comme le wahhabisme ou le sunnisme. Je crois que c'est une idée qui est erronée. Personnellement, je ne suis pas prophète. Je ne sais pas ce que va devenir le Mali. Je trouve que déjà la situation est assez dramatique. Mais il n'est pas exclu que le pays devienne un pays fortement musulman au sens radical du terme, sans pour autant être djihadiste, et donc reprendre des formes musulmanes extrêmes telles qu'elles ont été représentées par le Mujao ou par Acmi. Donc je pense qu'il faut se déprendre de l'idée que les musulmans... que les Africains musulmans ne sont pas des vrais musulmans. Quoi. Voilà.
Le Mali devient un État indépendant. Écoutez Modibo Keïta, son premier président.
Nous savons que l'indépendance politique ne résout pas automatiquement tous nos problèmes. Mais elle nous permet de les poser nous-mêmes, d'y apporter nous-mêmes les solutions appropriées. Nous savons également qu'il nous faudra, pour notre développement économique, social et culturel, des concours extérieurs, de France et peut-être d'ailleurs, dans la conception malienne des relations avec la France, dans une communauté rénovée, dans une zone franc conçue comme une zone de solidarité et de développement, le Mali apportera sa contribution. La France, nous en sommes convaincus, ne faillira pas à sa mission. La communauté est renouvelée. Sa force, elle ne l'appuisera pas dans la valeur juridique des textes, mais dans la volonté commune de rester ensemble, unis, solidaires, avec la diversité et le respect de nos souverainetés. Le Mali sera fidèle à ses engagements vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la communauté de l'Afrique, mais il entend aussi apporter... dans ce monde tourmenté, sa modeste contribution à la grande croisade pour la paix. Vive la France, vive la Fédération du Mali, vive la communauté des peuples libres.
Jean-Louis Hamzel, Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant. Quel est le rapport qui s'inscrit justement dans ce Mali indépendant entre l'État et la religion ? C'est un pays laïque, hein, constitution laïque.
Alors c'est effectivement une question intéressante parce que ces commerçants wahhabites, enfin qui étaient donc les détenteurs du capital, si je puis dire, enfin qui avaient de l'argent à leur disposition, ont financé les activités du RDA et de l'USRDA, pas seulement au Mali mais aussi dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Donc l'USRDA était le parti politique de Modibo Keïta, le parti nationaliste opposé au Parti Soudanais du Progrès qui était dirigé par Philippe Labo Sissoko et qui était une courroie de transmission de l'administration coloniale. Donc le leader de l'USRV a été Modibo Keïta, et Modibo Keïta évidemment avait une pente socialiste, et il a été aidé par ses commerçants wahhabites juste de 1945 disons à 1960, parce que c'est eux qui avaient les subsides, et puis c'est aussi eux qui quadrillaient la campagne. Ils avaient des relations parmi les paysans, donc ils ont été des militants actifs à la fois du wahhabisme et du RDA. Et lorsque Modibo Keïta est arrivé au pouvoir en 1960, lorsqu'il y a eu la rupture de la Fédération du Mali, la rupture avec le Sénégal, eh bien, il s'est débarrassé de ses commerçants pour instaurer un pouvoir d'État inspiré plus ou moins de l'Union soviétique, enfin des pays socialistes.
Les commerçants wahhabites ont donc apporté tout leur soutien au premier président malien, Modibo Keïta, afin qu'il prenne la tête du pays. Mais à quel moment les wahhabites sont-ils arrivés au Mali ?
Le Mali est une terre de commerçants. Les commerçants existent depuis des siècles au Mali. Des commerçants à longue distance, les Soninké, les Dioula, qui faisaient le commerce de la cola, du poisson séché, du sel-gem et de l'or, des esclaves aussi. Hein. La traite esclavagiste a eu une énorme importance dans toute cette région de l'Afrique. Et bien, ce sont ces commerçants, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont allés en pèlerinage en Arabie saoudite et qui ont découvert justement l'islam wahhabite saoudien, qui sont en quelque sorte convertis à l'islam wahhabite saoudien et qui ont diffusé cette forme d'islam au Mali. Souvent, pas toujours, les wahhabites refusent eux-mêmes ce qualificatif et se nomment eux-mêmes sunnites, hein, les gens de la sunna, de la tradition musulmane, de la tradition prophétique. Donc c'est un islam anti-soufi précisément, anti-mystique en principe, hein, anti-culte des saints, anti-maraboutique. Et ça collait assez bien avec la pratique commerciale, si vous voulez, parce que, au fond, c'était un peu l'équivalent de l'éthique protestante pour les commerçants, les débuts du capitalisme en Europe, un islam assez rigoriste, qui récusait tout intermédiaire entre les croyants et Allah. Hein, donc les marabouts, etc. Et donc ça collait assez bien avec cette volonté d'accumulation manifestée par les commerçants africains à cette période.
Jean-Louis Hamzal, quel est le rôle de l'Arabie saoudite en tant qu'État et donc en tant qu'État qui peut financer dans ce développement du wahhabisme au Mali ?
Alors, bon, on a beaucoup insisté là-dessus et les critiques du wahhabisme ou du sunnisme au Mali insistent beaucoup sur le fait que, justement, si ce mouvement s'est développé au Mali, c'est uniquement parce que, à cause des subsides fournis par l'Arabie saoudite. Moi, je pense que c'est une vision un peu courte. Ça n'est pas le seul facteur et que ça s'inscrit dans tout un mouvement historique constant de réformisme. Donc, c'est un mouvement constant de purification de l'islam qui a été mené par les wahhabites, mais bien avant eux, par d'autres mouvements. Voilà.
La marche du monde.
Le développement du wahhabisme au Mali, le président du Haut Conseil islamique l'a vécu dans son enfance, avant d'aller lui-même étudier en Arabie saoudite. Nous vous proposons de revisiter son parcours grâce à l'entretien réalisé par David Bachet pour La Marche du Monde. C'était en 2013 et c'est un document rare, doublé du récit biographique du soufi Ousmane Haïdara, également enregistré à Bamako à l'époque. Écoutez tout d'abord la parole de Mahmoud Diko, ancien marabout né à Tombouctou. Il avait 10 ans en 1965.
Très jeune, je suis venu, j'ai vu les gens en train de prier en croisant le bras.
Sur la poitrine.
Sur la poitrine. J'ai vu mon père en train de le faire. Et quand j'ai vu ça, quand je suis retourné voir mon grand-père qui ne le faisait pas, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi ces gens-là en priant ils font ça? Mais vous ne le faites pas, grand-père. Bon, j'étais très jeune à l'époque, mais je n'ai pas croisé mes bras, j'ai continué avec mon grand-père, donc j'ai grandi marabout. Je suis allé en Mauritanie, j'ai étudié là-bas. Là-bas aussi, il n'y avait pas le système maraboutique, donc je sillonnais partout. Partout où j'entends, on me dit qu'il y a un saint, très jeune, je partais là-bas parce que c'était ma culture, c'était ma philosophie. Moi-même, j'aspirais à être un saint, à être un soufi. C'était vraiment ma vie, j'étais pétri dans ça. Je suis revenu ici, j'ai commencé à enseigner, j'ai quitté le système maraboutique pour rentrer un peu dans le système classique, en enseignant dans une médersa où on s'arrête devant un tableau, on écrit.
Des écoles coraniques.
Voilà. Et ensuite, je suis allé en Arabie saoudite. Je suis resté quelques années.
Pour étudier ? Pour travailler ?
Pour étudier. Et j'avais l'intention même d'y rester, tellement j'avais envie de rester dans la ville du prophète, tant. Mais quand j'y étais, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Quand je suis venu, je ne suis pas venu radicalement changer. Je suis wahhabite, mais j'arrive à cohabiter, à travailler, à côtoyer tous les grands cheikhs du Mali, toutes les tariqas, les confréries. Je n'ai aucun problème parce que moi-même, je suis fruit. Quand je rentre dans ce milieu, c'est mon milieu naturel. Il n'y a pas de différence. C'est pour cela que j'arrive. Sinon, ce n'est pas facile, quelqu'un qui est pétri ou habite 100%, de pouvoir faire le travail que je fais. Donc, je suis revenu, mais je suis resté ce que je suis. Hein.
Thank you. Mahmoud Diko est un enfant du Nord. Il a appris le Bambara pour ses premiers prêches. Le Bambara, c'est la langue parlée à Bamako et dans sa région, et sans doute la langue la mieux maîtrisée au Mali, qui compte 13 langues nationales. Et le plus célèbre des prêcheurs maliens, Chérif Ousmane Madani Dara, s'exprime justement en Bambara, ce qui est tout simplement naturel pour lui.
Bon, Nyafie, Dine et Tasraudi. Ombolo ni mo mo dana ika kadri kono dinena alo ika dine anti bashia la lahara ala bi besare ingania ni ka baradel me ni ka dinena na nakra sababu ya ka fitne do jamana kono halbe o fitne kele o mbisena o dine kele insrafe vraiment on baye o te jamana ka dine o te ala era ka dine
c'est vrai le wahhabisme existe chez nous et nous acceptons chacun avec son courant religieux. Et après la vie ici à l'au-delà, pour nous musulmans, c'est Dieu qui jugera celui qui est sur la bonne voie. Mais quand dans ta pratique, tu considères que l'autre ne peut pas appliquer tel qu'il le conçoit et que votre religion conduit à détruire la société, nous on ne considère pas cela comme une religion et cela ne peut pas non plus justifier une religion. Parce que toute religion exclut tout ce qui porte à la personne ou au bien-être humain sur la terre.
Chérif Ousmane Madani Aïdara a fondé le mouvement Ansardine en 1991. Plus de 70 000 membres ont rejoint depuis cette association qui a une dimension confrérique. Le nom Ansardine a été repris par des djihadistes au nord, mais cela n'a rien à voir. Aucun lien n'existe entre les deux. Ousmane Aïdara a un discours critique sur les formes radicales de l'islam.
Oui, bon, on est sur l'année qui a pu m'informer. On sait qu'à mieux fois au là. On fait Mali Konoya, tableau flat de Bess la Mela, Wahabia ou bien, Soufia Moura ou bien. Bon, Wahabia ou Kasraka, Kaburu Bounia, Anika Foko la Horoma Bifena, Minti Alaire.
Au Mali, il y a deux courants. Les Wahhabites, qui selon eux, il n'y a pas d'intermédiaire entre un être humain et le Créateur. Pour nous, Soufis, Dieu a mis un intermédiaire entre nous et lui, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en revanche, nous, Soufis, nous considérons que pour accéder à Dieu, nous pouvons passer par des intermédiaires qui sont des personnes honorées, gratifiées, dont nous reconnaissons leur mérite auprès de Dieu. Tout soufi reconnaît cette valeur et cette intercession, ce passage entre Dieu et nous.
Et en ce qui concerne l'existence de marabout, quelle est votre position?
Bon, Nico marabout chika cha on fait mori nyama obé mori langolombe mais andalemba la moria est reconnu au te haramuye.
Chez nous, le marabout existe. Le marabout est vrai quand c'est conforme à la règle islamique. Mais dans toute société, il y a les bons et les mauvais. Les marabouts, il y a des marabouts, il y a des charlatans. Donc le marabout qui fait ce marabout suivant les règles islamiques est tout à fait admis et correct.
Si Aïdara a immédiatement condamné la destruction des mausolées par les djihadistes dans le nord, Diko a semblé prendre plus de temps. Il répond pour sa part en tant que président du Haut Conseil islamique.
Moi, je viens du même coin. Je suis de Tombouctou et je porte le nom célèbre de celui qui a été, dont le mausolée a été détruit le premier, qui s'appelle le Saint Sid Mahmoud Ben Omar. Moi, je suis Sid Mahmoud. Il y a beaucoup de gens qui parlent, ils ne savent même pas ce qui se passe au nord. Moi, je suis né là-bas, c'est ma culture, c'est ma vie, c'est ma ville, c'est notre patrimoine. Si quelqu'un est choqué, c'est bien moi. J'étais dans un dilemme. Pour ne pas me précipiter, parce que ces gens-là ont dit notre seul interlocuteur, c'est le Haut Conseil. On n'avait pas d'État. Le Nord était abandonné. Il n'y avait pas de médicaments. Il n'y a pas à manger. Il n'y a absolument rien là-bas. Nous parlons avec eux pour pouvoir ravitailler le Nord. Moi, j'étais dans une situation où qu'est-ce qu'il faut dire et en quels termes il faut parler. J'ai consulté beaucoup de gens avant de parler, avant de prendre l'avis des uns et des autres. Il y en a qui ont vu en ça que c'était une mauvaise foi. Bon, c'est leur droit de penser comme ils veulent. Je ne peux pas les empêcher. Mais moi, je sais comment j'agis. Et je ne me suis jamais précipité à condamner quelque chose. Tout ce qui arrive dans ce pays, je fais beaucoup attention avant de parler, avant de condamner, parce que je parle au nom de l'ensemble des musulmans du Mali.
représentant des imams qui est en train de faire la lecture du Coran. Voilà. Quelques versets du Coran, quoi.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite de notre émission consacrée au Mali, terre d'islam, et j'en profite pour saluer chaleureusement tous nos auditeurs et amis et leur dire toute notre affection et notre soutien. Deux stars maliennes sont aujourd'hui dans la marche du monde. Il s'agit des imams Mahmoud Diko et Ousmane Aïdara. Ils sont respectivement président et vice-président du Haut Conseil islamique. Notre correspondant David Baché les avait rencontrés séparément à Bamako en 2013 afin qu'ils nous donnent chacun leur point de vue sur les relations historiques entre islam et politique au Mali. C'est une archive exclusive de la marche du monde. Après la colonisation et l'indépendance, nous évoquons maintenant les années 90 et la fin de la dictature de Moussa Traoré après 23 années passées au pouvoir.
Je ne démissionnerai pas, mon gouvernement ne démissionnera pas parce que je ne suis pas l'élu de la seule opposition. Je suis l'élu du peuple malien.
En 1991, Moussa Traoré est renversé. Est-ce une bonne nouvelle pour l'islam au Mali ?
En Mali, Fama ou que ça soit Moussa Traoré ou Fama Orero, anti Fama Chidon Mali, qu'on a mis dans la classe la meilleure qu'elle. Parce que Moussa Traoré,
Moussa, comme tous les, ceux qui ont eu à diriger le Mali, aucun n'était quelqu'un qui était contre la religion musulmane, de sorte que ça pouvait poser un problème aux musulmans pour la pratique de leur religion. Et donc, de ce fait, on ne peut pas dire que tel président, Moussa Traoré, a freiné l'islam. C'était un président dans son temps, c'était la dictature. À l'époque, il partait à la mosquée, il priait et il laissait les musulmans faire leur religion comme bon leur semble.
Pour Chérif Ousmane Madani Aïdara, la dictature de Moussa Traoré ne privait pas les musulmans de leur liberté de culte. Mais le renversement de Moussa Traoré et la démocratisation du Mali sous la présidence d'Alpha Omar Konaré a favorisé le développement de nombreuses associations musulmanes, comme le rappelle Jean-Louis Hamzel de l'École des hautes études en sciences sociales.
Je crois que ce qui s'est passé, si vous voulez, avec la démocratisation, d'abord il faut rappeler que la démocratisation, ça s'est traduit aussi par la décentralisation. Et donc c'est une politique qui a donné beaucoup plus de pouvoir aux associations, aux pouvoirs locaux. Il y a une espèce de démultiplication du pouvoir et aussi de la corruption, hein, parce que l'explosion de la corruption existait bien sûr sous le régime de Moussa Traoré, sous le régime militaire, mais elle était, disons, plus limitée à un clan, entre guillemets, de la famille du président, disons, sa femme, son beau-frère, etc., qui redistribuait à l'intérieur de certains canaux parentaux, clientélistes, etc. Mais avec la démocratisation et aussi la décentralisation, il y a une explosion de la corruption et une explosion aussi, comment dirais-je, de toutes les associations au Mali. Bon, est-ce que ça a été favorable à l'islamisation du Mali avec l'aide des pays arabes, des pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite et du Qatar? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est un mouvement de fond. Il y a un mouvement de réislamisation de fond de la société malienne, alors qui peut certes profiter d'un financement étranger, celui de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc., qui joue certainement un rôle important. Mais je crois qu'il correspond aussi à une tendance de fond qu'on observe dans plusieurs pays et qui fait que, bon, il y a un travail de l'islam au sein de sociétés ouest-africaines. Ça a pris une forme wahhabite et puis, enfin, djihadiste au nord, wahhabite au sud, et puis il y a en Sardine version Aïdara parallèlement au wahhabisme. Mais je crois que tout ça fait partie du même phénomène, enfin.
Sur la question du développement des associations musulmanes, écoutez justement le fondateur de l'association Ansar Dine, qui n'a rien à voir, je le rappelle, avec le terrorisme, Chérif Ousmane Madani Aïdara.
La multiplication des associations islamiques grâce à la démocratie n'était pas forcément liée à la promotion de la religion. Nous sommes dans un pays pauvre, il faut le connaître. Donc la plupart ont été créées à dessein pour avoir des ressources provenant des pays arabes. Parce que les premiers qui l'ont créé ont eu quelques subventions, quelques aides arabes. Donc du coup, ça a suscité l'engouement pour les associations islamiques. Mais si vous prenez ces associations, par centaines, il n'y a que une proportion vraiment très faible qui sont des vraies associations et représentatives sur l'échiquier national.
Et pour Mahmoud Diko, comment expliquer justement ce développement des associations musulmanes au Mali ? La question lui a été posée par notre correspondant David Bachet.
En tout cas, c'est une dynamique qui a permis à tout le monde de se développer. Et ça a coïncidé aussi à un retour massif de jeunes gens qui sont allés étudier dans de différents pays musulmans, arabes, notamment en Arabie Saoudite, au Soudan, en Iran, en Égypte. C'est des milliers qui sont retournés. Donc, ça a donné une situation de boom. Voilà.
Est-ce que cette double dynamique, à la fois démocratique, politique d'un côté et musulmane, religieuse de l'autre, est-ce qu'elle n'a pas fait de la mosquée, pour la première fois dans ces années 90, un lieu de débat politique ?
Oui. Comme je l'ai dit, il y a un changement radical dans tout. Les mentalités ont changé, les hommes, les acteurs ont changé. Les imams, ce n'est plus les mêmes imams, parce que vous avez de milliers de jeunes gens qui sont venus de ces différents pays avec de grands diplômes. Ils ont côtoyé aussi des endroits où les mosquées sont des lieux de débat. Forcément, ça a une influence sur ce qui va se passer au Mali. Et ça a eu cette influence, effectivement. Surtout que s'il y a un déficit dans ces différentes formations politiques qui ne donne pas satisfaction dans ce qui se dit, ce qui se fait. Le débat n'est pas tout à fait ce que la population souhaite. Bon, le débat peut se transférer dans les mosquées, dans les lieux de culte, dans le marché, dans n'importe où.
Chérif Ousmane Madani Aïdara.
Oui, bon, oui, pourquoi pas, parce que Anga Slamé Doubi.
Oui, c'est vrai. En cette époque, certains de nos imams ont flirté avec la politique. Ils ont prêché la parole politique dans la mosquée et ont appelé les fidèles à voter pour telle personne, en prêchant pour des candidats.
Et est-ce que vous pensez que ça a favorisé l'émergence d'une conscience politique parmi la population malienne ?
Parce que
oui, sans doute, ça a développé un comportement, un esprit de plus en plus s'intéresser à la politique dans les milieux musulmans. Mais nous avons toujours mis en garde les leaders musulmans par rapport à la politique. Au Mali, on ne peut pas interdire la politique aux musulmans parce qu'on est un pays à 95% musulmans. Mais les leaders doivent rester en dehors du champ politique.
Les leaders religieux.
Les leaders religieux, je veux dire, doivent rester en dehors du champ politique pour un recours en cas de mésentente majeure dans la société. Ceci constitue les arbitres.
Et pourtant, la politique a fait son entrée à la mosquée au Mali dans les années 90. Ces mêmes années 90 où le FIS, le Front islamique du salut, basculait dans la violence et appelait au djihad en Algérie suite à l'annulation des élections de décembre 1991, justement gagnées par le FIS. 10 ans plus tard, en 2002, devant la multiplication des mosquées et des associations musulmanes de toutes obédiences dans le Mali, l'État décide de créer le Haut Conseil islamique destiné à représenter les musulmans maliens face aux autorités. Le 17 janvier 2002, on l'annonce sur RFI.
Au Mali, création hier à Bamako du HCIM, du Haut Conseil islamique du Mali. Un organisme censé représenter l'ensemble des musulmans du pays et censé les protéger des dérives fondamentalistes. Le président de ce Haut Conseil islamique, Abi Tierno Aboubakar Thiam, interrogé par Boniface Vignon.
Les associations islamiques sont très nombreuses maintenant au Mali. Nous sommes à 106 associations inscrites officiellement. Et chaque association s'évolue dans son milieu. Et souvent, il y a des confrontations idéologiques suivant des différences qui existent entre les écoles islamiques. Donc, cela annule un peu la vie des musulmans dans notre pays. Donc, nous voulons les canaliser suivant un programme bien déterminé.
amse ka min do ana anya me ko fama o de asi pour que mal islam au bebse ka do dakele fe ka bo dakele fe.
C'est vrai, le Haut Conseil en 2002 a été créé par le président Alpha Omar Konaré à la fin de son dernier mandat, et l'objectif c'était pour rassembler les musulmans au sein d'une unique association fédérée et qui est un seul interlocuteur de l'État laïque, et réduire les divergences entre les musulmans. Donc, rassembler, unir les musulmans en une seule voix, en une seule conduite. C'est ça l'objectif du Haut Conseil.
Et alors, objectif rempli, ou est-ce que les divergences entre les musulmans ne se sont pas rassemblées au sein de ce Haut Conseil?
Bon, cela même m'a faragnonka. Cela même m'a faragnonka. Fama eruya d'abord minkama atara kouboloda.
L'objectif n'a pas été atteint parce que le rassemblement attendu n'a pas eu lieu, et l'objectif visé par les gouvernants n'a pas été, à mon avis, atteint aussi, parce que ceci se cherche aujourd'hui avec l'islam dans notre pays. Donc personne n'a eu son compte.
Chérif Ousmane Madani Haïdara, dans la Marche du Monde, fondateur de la puissante association Ansar Dine, qui n'a rien à voir avec l'association terroriste du même nom, on le répète systématiquement, et par ailleurs vice-président du Haut Conseil islamique. Il garde en effet une certaine liberté de ton par rapport au Haut Conseil, mais en ce qui concerne le code de la famille, il s'est finalement rallié à la majorité et ATT, le président Amadou Toumani Touré, s'est imposé à l'époque de soumettre ce projet de loi à une deuxième lecture.
Pour la quiétude et la paix sociale, il s'impose de renvoyer le code des personnes et de la famille à une deuxième lecture pour nous permettre d'obtenir l'adhésion, la compréhension de nos compatriotes. Notre souhait, au-delà de toute considération, est de ramener la quiétude et de sauvegarder l'unité nationale qui nous est particulièrement chère.
Explication de Mahmoud Diko, le président du Haut Conseil islamique.
Nous étions opposés tout simplement parce que nous pensons que dans ce fameux code, il y a quand même des dispositions qui girent avec certaines valeurs sociétales et religieuses de notre pays. En réalité, ce n'est pas le code en tant que tel. Il y a quand même certaines dispositions de ce code dans lesquelles on ne se reconnaît pas.
Notamment
Notamment le problème de l'héritage, parce que pour nous, nous sommes des musulmans, l'héritage est réglé d'abord par notre religion. Et il n'est pas question pour nous de laisser ce que la religion a à dire et régler ça autrement.
Pour être concret, ça veut dire que la femme récupérait les mêmes droits que les hommes et que ses frères au moment de la succession.
Oui, vous savez, les gens ils prennent quelque partie de cette disposition religieuse pour faire une interprétation un peu erronée. Il y a des cas dans lesquels ce que la femme gagne, l'homme ne gagne pas ça. Ça dépend de quelle manière. Il y a des situations dans lesquelles, effectivement, l'homme a certainement le deux tiers de ce que la femme doit obtenir, mais ce n'est pas dans tous les cas de figure. Les gens ne le savent pas, et ce n'est pas une injustice du tout. Et loin de nous aussi de penser que quelque chose pour nous qui est réglé de façon divine, et que ce Dieu qui a dit que ça soit ainsi, dire que ce n'est pas exact et que ce n'est pas équitable, c'est blasphémé, c'est pour nous.
C'est ce qui permettait aux droits des femmes d'évoluer qui a été rejeté.
Mais c'est pas au droit de femmes d'évoluer, non. Vous savez, il faut que les gens acceptent aussi que le monde est divers, le monde est pluriel, le monde ne peut pas être unipolaire comme ça. L'universalité ou l'universalisme de ces droits, je ne sais pas qui les a décrétés. Je ne sais pas depuis quand les gens se sont réunis pour dire ensemble que dans le monde entier, ça c'est d'accord, c'est universel. Il y a des choses qui sont universelles, boire, manger et se vêtir, droit au logement. Tout être dans ce monde-là a droit à cela. Mais il y a des choses quand même que les gens ont de spécificités. On doit nous accepter cela. Dans aucun pays, personne ne veut du mal à sa fille ou sa femme ou sa sœur. Pensez que nous ne voulons pas le bonheur de nos femmes. C'est vraiment nous insulter même, à la limite.
La marche du monde.
Je rappelle effectivement que la Déclaration universelle des droits de l'homme s'applique à tous les humains. Alors pour Jean-Louis Hamzel, spécialiste du wahhabisme au Mali, la position du Conseil islamique est tout à fait cohérente.
De toute façon, le Mali est un pays à 99% musulmans et 99% peut-être de la population se définit comme musulman, en tout cas n'ose pas se définir, même s'il y a des païens, s'il y a des fétichistes ou des animistes, les gens n'osent pas affirmer sur la place publique qu'ils le sont. Dans le cadre du code de la famille malien, la polygamie est certes permise, on peut avoir jusqu'à 4 femmes, ce qui correspond à la loi musulmane, mais une fois qu'on est marié à une femme, il faut l'autorisation de la première pour en prendre une deuxième, etc. etc. Donc il y a quand même des limitations à la polygamie dans le code de la famille. Et donc ce n'est pas un hasard si les wahhabites qui, malgré tout, ou les sunnites, bon, veulent instaurer la charia, veulent précisément supprimer ce code de la famille qui a, malgré tout, une certaine composante, une certaine inflexion laïque. Alors ça, je crois que c'est important de le souligner.
Au mois d'août 2012, le gouvernement malien a créé un ministère des affaires religieuses et du culte et en a confié le portefeuille au docteur Yacouba Traoré, membre du Haut Conseil islamique. Est-ce que cela signifie que le Mali pourrait renoncer à la laïcité? La réponse de Haïdara.
Bon, Nasr Laïkama et République islamique, Nebolo, Alaire, Nienda, Choumna, Nebife, Malika, Touti.
Moi, je préfère que le Mali reste tel que Dieu même a créé le monde. Il vive dessus des croyants, des non-croyants, des hypocrites, toute catégorie, toute idéologie. Le Mali ne fait pas exception à cette règle, c'est mon point de vue. Donc, on peut vivre en harmonie et on peut vivre tranquillement dans un état où tout le monde y respecte, tout le monde y vit, tout le monde laisse l'autre faire sa religion, sa culte spirituelle.
Ce que vous dites, ça implique que vous seriez contre l'application de la charia au niveau national.
Bon, non, c'est pas bon. Dis charia contre la même fait qu'à mille fois ni charia biboule islam au déca charia tiboule malikaon.
Si c'est la charia, moi je suis musulman, je ne suis pas contre la charia, mais la charia s'applique à moi musulman, non pas à celui qui n'est pas musulman. Il ne faut pas faire l'amalgame entre charia pour la religion et charia pour l'État. On demande une charia pour les personnes dont cette charia s'applique, qui sont les musulmans. Donc oui, je fais partie des premiers qui ont demandé que les musulmans acceptent la charia, mais pas la charia telle que vous posez la question comme une charia État.
Pas d'inscription de la charia dans la constitution de l'État malien, nous dit Chérif Ousmane Madani Haïdara. Je vous propose maintenant d'écouter la réponse de Mahmoud Diko à la question suivante. La création d'un ministère des affaires religieuses et du culte signifie-t-elle la fin de la laïcité?
Si ce ministère a été créé, vous voulez qu'on crache dessus? Non, nous pensons que c'est une bonne chose.
Dans tous les pays, il y a ça. Il y en a en Guinée, il y en a au Sénégal, il y en a au Niger, il y en a en Algérie, il y en a au Maroc.
Pourquoi au Mali, c'est un problème?
Ceux qui y voient un problème, y voient une remise en cause, un début de remise en cause de la laïcité de l'État. Pour vous, c'est le cas?
Non, ça n'anticipe pour rien. C'est une session, il faut gérer seulement les affaires courantes de religion, de façon générale. Mais ce que je veux dire tout simplement, que moi je ne comprends pas ce que les gens veulent, puisque je vois tous les chefs d'État, les chefs de gouvernement qui sont en train de se précipiter pour aller à Rome aujourd'hui. Ils vont aller dans une église, ils vont aller prier, ils vont aller chez un religieux, mais leurs États sont des États laïcs. Pourquoi ils vont là-bas?
Ce que vous dites, c'est qu'on peut parler de religion, on peut travailler avec la religion dans un État religieux sans être un État religieux.
Oui, bon, État religieux, vous savez, tout ça là, ça dépend des hommes, ça dépend de leur compréhension, ça dépend de leur façon de faire.
Et la vôtre, votre façon de faire, votre façon de voir les choses.
Mais ce que je dis, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens, ils nous interdisent et qu'ils s'autorisent eux-mêmes.
Thank you.
Néanmoins, Chérif Ousmane Madani Haïdara exprime son inquiétude quant à certains courants radicaux de l'islam présents dans le nord du Mali, mais aussi à Bamako.
Nous sommes les femmes, et nous sommes les Mali qui vraiment alni normo te dans sa moro bien vraiment en train même comme nous régné parce que en boulot moro nous bi labé onde là parce que dongodo arabou bina ambe misrijo ambe misrijo.
C'est vrai qu'aujourd'hui au Mali il y a certains comportements qui nous inquiètent parce que ceux-ci sont partout, que ce soit au nord, ils sont d'ailleurs plus nombreux, ils sont encore nombreux à être de plus en plus vus au sud ici. Et ces gens bénéficient de l'appui financier des pays arabes et qui soit pour construire des mosquées. Et nous sommes dans un pays pauvre. La meilleure manière d'aider un pauvre, c'est de lui apprendre un métier où il peut trouver à gagner son pain quotidien. Mais nous considérons ceci, c'est des campagnes pour amener un islam d'un autre comportement. Et ça, vraiment, ça nous inquiète. La construction de ces mosquées sont des campagnes pour un futur, une autre idéologie religieuse en gestation, pour lesquels nous sommes vraiment inquiets.
Ces pays qui financent ces mosquées, c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite, c'est d'autres ?
C'est les Arabes. Araboudou.
C'est les Arabes.
Avant de clore ce magazine, nous revenons sur la destruction des lieux de culte par les djihadistes au nord Mali. C'était en juillet 2012. Et nous laisserons le mot de la fin à Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique.
Djingar Eber, édifice mythique construit en banco en terre au XIVe siècle. C'est la mosquée du vendredi. 14 000 personnes s'y réunissent chaque fin de semaine et l'UNESCO l'a classé récemment patrimoine mondial en péril. C'est un lieu fondamental pour les musulmans, notamment pour les grandes familles soufis de la cité. Les islamistes ont pour le moment détruit deux mausolées qui jouxtent la partie ouest de la grande mosquée.
Vers 8 heures, il y avait une quarantaine de moudjahidines dans Sardine qui ont été cassés. Les grandes mosquées de Djingar Eber, il y avait un saint qui s'appelle Mohamed El Foulani. Ils ont fait tomber la maison dans laquelle il se trouve. Quoi. Ils ont détruit tout ce qu'on a. Je suis mécontent, je n'ai pas de force pour me défendre.
Tous les accès à la grande mosquée sont bloqués. Des 4x4 équipés d'armes lourdes sont stationnés au carrefour. Personne ne passe, personne n'est autorisé à regarder. Les islamistes ne veulent apparemment pas d'image. Ils ont pris de force les caméras de certains journalistes locaux. Et pour les anciens de Tombouctou, c'est le désespoir.
Les islamistes sont venus armés jusqu'au dents. Ils ont bloqué la route. Personne ne passe. Ils sont là-bas actuellement. Je suis vraiment touché. Il y a même des gens qui sont en train de pleurer. Des vieilles personnes.
On va repartir dans le Nord Mali, si vous voulez bien.
Oui.
Malgré la signature en 92 du pacte national, on a souvent accusé Amadou Toumani Touré d'avoir abandonné le Nord. Vous, est-ce que vous pensez que ces dernières années, l'État a manqué de jouer son rôle dans le Nord ? Est-ce que vous pensez que le Nord a été délaissé ?
Oui, ce n'est pas parce que je pense, mais c'est la vérité. Penser, ça, c'est quand vous doutez de quelque chose. Moi, je suis du Nord, je sais. Vous prenez le Nord du Mali, vous prenez de la frontière algérienne jusqu'à Niono, il n'y a pas un kilomètre de goudron. Il n'y a presque rien. C'est des vérités, c'est des choses qui sont réelles. Maintenant, c'est vrai que tout le Mali aujourd'hui souffre. Le Mali est un pays pauvre. Mais en réalité, il faut reconnaître que beaucoup de choses n'ont pas été faites par l'État et leur politique aussi après le pacte. Tous les projets, on a donné ça à des gens qui se sont remplis les poches, qui ont fait ce qu'ils veulent avec la complicité et la passivité de l'État malien. Donc c'est l'État qui est responsable.
Et qui est responsable aussi de la situation à laquelle nous sommes parvenus aujourd'hui ?
Mais ils sont responsables. Ces islamistes, Acme et autres, là, ils étaient dans le nord du Mali. Qui leur a donné l'autorisation de rester là-bas ? Ce n'est pas nous, c'est l'État. Ceux qui devraient interpeller l'État pour leur demander des comptes sur ça, c'est les élus. Est-ce qu'ils l'ont fait ? Pendant 10 ans, on est là, tout le monde est là. Ces gens-là sont restés ici depuis qu'ils étaient dans des grottes jusqu'à ce qu'ils sont revenus dans des villes pour se marier, pour s'établir. Tout le monde les connaissait. Ils prenaient des otages, ils viennent les monnayer ici. Aussi, au vu de tout le monde, personne n'a dit mot. Mais s'il y a un problème aujourd'hui, mais c'est la faute de qui ? C'est la faute de l'État, il ne faut pas dire autre chose. Mais ces islamistes, on leur a ouvert le boulevard. Si vous leur donnez la route pour leur dire de venir prendre un pays, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le prendre.
Une fois de plus, le Haut Conseil islamique condamne sans aucune équivoque la violence, du terrorisme, mais aussi la déficience de l'État malien. À l'heure où les Maliens revendiquent plus que jamais leur identité musulmane, la parole des imams semble porter plus loin et plus fort que celle des politiques.
Chers musulmans, il faut se mobiliser parce que ce pays a atteint un seuil critique. Il est détérioré, tombé et n'a plus de souveraineté. Nous étions une colonie française hier, c'est vrai. Mais est-ce que la France doit continuer à nous dicter tout ce que nous devons faire ?
Pourquoi ?
Démonstration de force au stade de Bamako le dimanche 10 février 2019. Mahmoud Diko fustige le gouvernement malien.
Nous étions une colonie hier. Mais aujourd'hui, nous sommes souverains. Pourquoi nous ne décidons pas pour nous-mêmes ? En plus de cela, vous voulez nous imposer des pratiques ? Depuis un certain temps, ça se passait en cachette. Et maintenant, on veut nous imposer l'homosexualité et ses pratiques. C'est notre pays. Nous ne pouvons pas assister à sa destruction. Nous voulons qu'il se construise. Il faut que le président sache que les autres aussi ont des idées à faire prévaloir.
Ils ont une opinion.
Ce serait comme à l'époque de l'impérialisme, où le peuple n'avait pas d'opinion. Là encore, nos dirigeants pensent que nous n'avons pas d'opinion. Les imams ont leurs opinions. Ce gouvernement ne construit pas le pays. Il faut que nous nous parlions. Si vous ne faites pas attention, la direction prise ne sera pas une bonne direction.
Les imams ont des opinions et ils organisent des meetings pour les propager publiquement dans les stades de Bamako, ce qui pose la question des ambitions politiques, des chefs religieux et plus largement de la laïcité de la République malienne. Mali, les imams sont-ils politiques ? C'était une édition de La Marche du Monde, réalisée par Sophie Jeannin et Steven Elsley, avec la complicité de notre ancien correspondant à Bamako, David Baché. Exprimez-vous à l'adresse suivante, marche.monde@rfi.fr. Podcastez, réagissez, cette émission, c'est la vôtre.